En musique, comme à peu près partout, on peut souvent avoir du mal à distinguer le faux du vrai. Et il faut dire que le faux est particulièrement créatif pour nous faire croire qu'il est parfaitement vrai. Au point où plus un morceau ou une artiste essaie d'être vrai, plus on pourrait croire qu'il ou elle est faux. Je vous assure que la suite est plus claire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Manu et bienvenue pour le 12e service de boissons chaudes et tartines fraîches. Si c'est votre première écoute, le concept est très simple. Chaque mercredi, je vous propose une chronique sur un sujet musical que j'ai vu passer dans l'actualité récente ou au hasard de mes recherches. Aujourd'hui, on va parler d'un gros winner qui a voulu profiter du système et qui est en train de le payer cher. Un homme au Danemark vient d'être condamné mi-mars à 18 mois de prison pour une large fraude des plateformes de streaming. Avec des faux comptes, il générait des écoutes automatiques sur des morceaux qu'il avait lui-même mis en ligne et en tirait des royalties. Il aurait ainsi obtenu 2 millions de couronnes, soit environ 290 000 euros de revenus. Donnons-lui le simple crédit d'être passé inaperçu pendant des années. A partir de 2013, le coupable, dont l'identité est restée secrète, aurait commencé à mettre illégalement sur Spotify ou Apple Music des centaines de morceaux. L'arnaque est sur deux niveaux. Il aurait pris des chansons existantes, modifié leur durée, leur tempo, pour les publier ensuite sur les plateformes. Et en parallèle, il aurait créé des comptes, pas moins de 69, dont 20 rien que pour Spotify, et développé un logiciel pour programmer des écoutes. Le procédé aurait généré des millions de clics sur à peine quelques centaines de titres, permettant au fraudeur d'être un des 50 artistes les plus streamés au Danemark pendant 3 ans. Mais en 2016, des artistes vont commencer à trouver leurs propres compos sur les plateformes, dans des versions alternatives. Ils vont faire remonter l'info à Koda, une structure danoise en charge de la distribution des revenus des artistes en ligne, qui va lancer une enquête. Et elle va vite constater que les chiffres d'écoute sont étranges. En très peu de temps, on passe de 0 à des milliers d'écoutes. Une plainte va donc être portée en 2018 par une ONG spécialisée dans les droits des créateurs sur Internet, pour falsification de données et non-respect des droits d'auteur. Et ce procès actuel n'est donc pas dû à une réaction des plateformes, mais des musiciens eux-mêmes qui ont remarqué la fraude et tiré la sonnette d'alarme. L'homme condamné, qui avait justifié que cette activité était liée à son métier dans l'industrie musicale, a dit qu'il ferait appel de cette décision. Et au final, la sanction est plutôt clémente. Seulement 3 mois ferme sur 18, la confiscation des revenus et une amende d'un peu moins de 27 000 euros. Mais pour les parties gagnantes, les représentants des ayants droit, c'est surtout une avancée qui montre que la justice s'engage pour lutter contre la manipulation des écoutes, qui est loin d'être négligeable. Cette méthode de fraude au streaming à grande échelle est apparemment une première, au moins au Danemark, mais des exemples comparables sont apparus ces dernières années. Selon Digital Music News, l'IFPI, c'est-à-dire la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, a annoncé avec fierté le démantèlement de plusieurs services de faux stream basés au Canada, et en 2023, des articles de presse ont affirmé que Spotify était utilisé comme un moyen de blanchir de l'argent par des gangs criminels en Suède. Comme le note le magazine Wired, à une époque où on trouve des écoutes automatiques sur des morceaux créés par des intelligences artificielles, c'est un nouveau point faible dans le modèle du streaming. Ces grosses corporations développent des outils de surveillance, mais il est encore bien possible de passer à travers. On estime par exemple que 300 millions de dollars sont détournés chaque année pour les faux streams, et pour compléter, le Centre National de la Musique a estimé qu'il y avait eu entre 1 et 3 milliards de fausses écoutes en 2021. Dans une étude publiée par l'Université du Maryland en 2021, Christine Smith-Burton détaille les techniques de fraude existantes et défend l'importance d'une législation pour protéger le marché. Elle cite notamment le cas des playlists, devenues hyper importantes pour se faire remarquer sur les plateformes d'écoute, et la fraude qui peut en découler, notamment tous les faux. Faux artistes, fausses chansons, faux comptes et même fausses playlists.
En 2017, un fraudeur bulgare aurait créé un faux compte d'artiste sur Spotify et mis en ligne 467 pistes autogénérées. Chaque piste durait un petit peu plus de 30 secondes et toutes les 467 pistes ont été placées dans deux fausses playlists nommées Soulful Music et Music from the Heart. Après avoir créé ces artistes et playlists, le fraudeur aurait alors ouvert 1200 faux comptes individuels sur Spotify Premium. Chaque compte devait écouter les fausses playlists sur des boucles continues de 30 secondes et cette fausse manipulation a apporté au fraudeur des royalties de plus de 400 000 dollars par mois.
Bon, il finira par se faire prendre par Spotify qui retira les playlists, mais seulement après que le fraudeur ait généré autour d'un million de dollars de revenus. La justice est donc de plus en plus au fait de ces pratiques, et le cas danois montre que les artistes, qui sont lésés au niveau économique et en visibilité sur les plateformes, peuvent et doivent défendre leurs droits. On a souvent cité le téléchargement illégal, mais pour moi là c'est du vol, c'est du détournement. Reste maintenant à voir à quel point les géants du streaming ont envie de s'impliquer dans cette lutte. Est-ce que vous connaissiez cette histoire ou des cas similaires de fraude au streaming? Et quels outils pourraient être efficaces pour faire face à tous ces faux qui prennent de plus en plus de place? Venez en parler avec moi sur Instagram ou notre serveur Discord. Voilà pour cette chronique, je vous donne quelques petites recos avant de partir. Trois petites choses cette semaine. D'abord, un outil assez pratique que j'ai découvert pour les documentaires musicaux, rockimentary.fr, c'est un site en français qui répertorie des centaines de docus avec un résumé, des bandes annonces et des œuvres en rapport. C'est surtout axé sur du rock au sens large, mais on a aussi de la pop et du rap, et c'est assez pratique pour savoir si tel ou tel artiste a eu son documentaire. C'est une bonne initiative qui mérite de grossir. Ensuite, une blague qui aura mis 30 ans pour devenir réalité. j'ai vu passer sur le site du magazine Kerrang que Cypress Hill allait faire un concert avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Donc le groupe de rap rock latino va faire un spectacle avec des musiciens classiques, oui c'est rigolo, mais c'est pas là la blague. En fait, en 1996, les Simpsons, oui encore eux, ont fait un épisode, Homer Palooza, où Cypress Hill fait une apparition. Il y a un moment en backstage d'un festival où un livreur apporte le London Symphonic Orchestra, qui a apparemment été commandé par des gens défoncés. Et si vous connaissez le groupe, vous savez qu'ils sont des gastronomes du cannabis, donc on a droit à Insane in the Brain au violon. Et le gag a beaucoup plu puisque des fans ont tenté pendant des années de réaliser cette rencontre, et ça va enfin se faire le 10 juillet prochain au Royal Albert Hall de Londres, où ils vont notamment jouer l'album culte Black Sunday. Et la direction de l'orchestre a même remercié les Simpsons pour l'idée. Je pourrais pas y aller, mais j'espère trouver une captation rien que pour voir Cock the Hammer avec une contrebasse et des violons stridents. Et enfin, un conseil tout simple. On vient de fêter les 30 ans de The Downward Spiral, le chef-d'œuvre de Nine Inch Nails. Si vous l'avez jamais écouté, si vous le connaissez bien mais que vous l'avez laissé depuis des années, replongez-vous dans cet album. C'est un de ces rares disques qui s'écoute d'une traite, mais dont on peut ressortir les morceaux indépendamment. Alors c'est du rock industriel, celui-là est bien exigeant, l'ambiance est sale, malsaine et violente, mais avec cette descente dans des enfers personnels, on trouve aussi des grands moments révélatoires, et une vraie beauté sincère. En tout cas, quels que soient vos goûts, je ne vois pas comment cet album vous laissera indifférent. Et en bonus, je vous annonce que le blog de Tartine Ta Culture est dispo dans sa nouvelle version. Il était temps de mettre un peu d'ordre dedans, donc là je vous ai fait une vitrine de nos créations actuelles, mais vous pouvez aussi retrouver les anciens formats, une centaine d'anciens articles, et des liens vers mes autres projets. C'est pas grand chose, mais c'est un point central pour les gens qui découvrent ce qu'on fait. Si vous connaissez des gens qui connaissent pas encore Tartine Tes Cultures et qui voudraient découvrir, ça peut être une porte d'entrée. Et j'ai souvent été surpris du trafic régulier sur le site, donc ça méritait un peu de travaux. Je vais continuer à le mettre à jour, mais vous pouvez déjà le visiter. Et petite info, pour finir, je serai à Podren ce week-end. J'annonce tard ma présence au festival, je pensais pas pouvoir venir cette année, mais finalement je pourrais venir en spectateur voir mes camarades du Podcast Game à Rennes le 30 et 31 mars. Voilà, merci d'avoir suivi cette 12e boisson chaude, n'hésitez pas à en parler avec moi et à partager l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et rejoindre notre page Patreon. D'ailleurs, nos contributeuristes vont vite avoir un petit cadeau dans leur boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve mercredi prochain pour le 13e épisode. Salut !